Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Vous écoutez l'Ovalie, podcast qui retrace l'actualité rugbystique de la semaine. Dans cet épisode, nous allons notamment revenir sur la quatrième journée du tournoi des Six Nations 2021 et nous parlerons également du tirage au sort des huitièmes de finale des compétitions européennes.
C'est plus qu'un match en fait, c'est un événement sportif pour moi. C'est sans doute le rendez-vous ultime entre deux grandes nations du rugby européen. Et c'est surtout ça qui fait que les joueurs ont envie de se dépasser, qu'il y a une effervescence autour de la rencontre.
On commence tout de suite avec le tournoi des Six Nations et la défaite frustrante du 15 de France face à l'Angleterre. Avant de parler de cette 108e rencontre opposant l'Angleterre à la France, je voudrais revenir rapidement sur les origines de cette rivalité. C'est en 1906, le 22 mars 1906, qu'a eu lieu la première confrontation Angleterre-France de l'histoire. Ce choc sportif, mais aussi des cultures, est l'occasion pour les deux pays de régler leurs comptes et à certaines époques de départager les deux meilleures équipes de l'hémisphère nord. Au Parc des Princes, et malgré la volonté des Français de s'imposer dans ce sport 100% britannique, ces derniers vont s'incliner lors de cette première confrontation. Cette défaite est la première d'une longue série, car les Français ne vont réussir à s'imposer seulement 21 ans plus tard, en 1927. Cette guerre de plus de 100 ans tourne à l'avantage des Anglais, qui ont remporté 60 de ces confrontations, contre 41 pour la France et 7 matchs nuls.
Mais voilà, j'ai envie de dire qu'on est encore dans la course. Il y a eu beaucoup de courage, beaucoup de solidarité aujourd'hui. C'est des matchs qui nous font grandir.
Samedi soir, devant au score à 3 minutes du terme de la rencontre, le 15 de France s'est finalement incliné 23 à 20 lors de ce 108e crunch de l'histoire. Les Bleus étaient très proches de réaliser un exploit à Twickenham dans le mythique stade anglais où ils n'ont pas gagné depuis août 2007. Après une longue période sans match suite à une lourde contamination à la Covid-19, les Bleus ont su imposer un rythme effréné durant la première période et rivaliser dans ce bras de fer ancestral. Sur la première action du match, Vakatawa côté gauche met l'équipe dans l'avancée avant de servir Teddy Thomas sur son aile. En 1 contre 1 face à l'arrière anglais, l'ailier du Racing tape un petit coup de pied par-dessus qui profite à Antoine Dupont pour inscrire un essai d'entrée de jeu. Mais cet essai va piquer à vif les Anglais qui vont étouffer leurs adversaires dans leurs 22 mètres pendant 10 longues minutes. Multipliant charges offensives et jeu à une passe avec les avants, les Anglais vont parvenir à trouver l'espace sur l'aile droite d'Anthony Watson à la 10e minute de jeu. Menés au score 13 à 7 après 30 minutes de jeu, les Français répliquent de la plus belle des manières sur une merveille d'attaque en première main. Sur une touche dans le camp anglais, Marchand trouve en fond d'alignement Ficou pour un service dans le dos à destination de Dupont qui s'appuie sur un leurre de Vakatawa et décalé dans l'espace Mathieu Jalibert. L'ouvreur bordelais accélère, fixe la défense et allonge la passe pour Damien Penaud, seul dans son couloir. Audacieux, solidaire et précis techniquement, les Français retournent au vestiaire avec l'avantage au score 13-17. Mais en seconde période, le match va baisser en intensité et en qualité technique jusqu'à l'entrée des remplaçants anglais. L'apport du banc anglais va faire très mal aux Français qui vont faire preuve de courage et de solidité en défense avant de craquer à la 77e minute. Dans la continuité d'une pénale touche et d'un temps fort anglais, le deuxième ligne anglais, Mario Itoji, relève le ballon et s'écroule dans l'embute en emportant avec lui le Français Cameron Wauke. Dans un premier temps, l'arbitre du match, Monsieur Brace, affirme qu'il n'y a pas essai, que la main de Wauke s'est glissée entre le ballon et la pelouse. Mais après arbitrage vidéo, l'arbitre accorde l'essai qui propulse les Bleus vers une défaite qu'ils étaient parvenus jusqu'ici à repousser tant bien que mal. Avec cette défaite frustrante, le 15 de France dit au revoir au Grand Chelem, mais peut tout de même remporter le tournoi en s'imposant lors de ses deux prochaines rencontres contre le Pays de Galles et l'Écosse. Pour cette 108e rencontre opposant l'Angleterre à la France, j'ai retenu deux belles prestations tricolores. Habituellement remplaçant de Leroux, Romain Taufifunua a réalisé un excellent match défensif. Le second ligne toulonnais a fait preuve d'une activité débordante avec 17 plaquages réalisés en 1 heure de jeu et a été très précieux dans les rucks. Il gratte en effet deux bons ballons, un sur Malins à la 31e minute et un second au retour des vestiaires à la 47e. J'ai également apprécié la prestation de Mathieu Jalibert qui s'est montré à la hauteur malgré la pression du retour de Ntamack dans le groupe des Bleus. L'ouvreur de l'UBB a été impeccable dans son rôle de buteur avec 100% de réussite. Il a également sauvé les Français d'un essai, grâce à un retour défensif sur un coup de pied à suite de Watson, avant de réaliser un crochet dévastateur devant Slade pour une relance audacieuse à la 38e minute. Pour finir, il a également été très bon dans l'alternance, l'organisation, mais aussi dans la vision du jeu, notamment sur le deuxième essai français. En ouverture de cette quatrième journée du tournoi des 6 nations, le Pays de Galles s'est largement imposé 48-7 face à une équipe italienne bien au-dessous des autres équipes dans ce tournoi. Profitant de l'indiscipline et des erreurs techniques italiennes, les Gallois ont rapidement fait la différence dans ce match en décrochant le bonus offensif en seulement 30 minutes de jeu. Même scénario dans le second acte pour le 15 du Poirot qui confirme sa maîtrise avec 3 nouvelles réalisations tout en parvenant à faire tourner son effectif. En déplacement à Murrayfield dimanche après-midi, l'Irlande a remporté son match l'opposant à l'Écosse 24-27. C'est une équipe irlandaise réaliste et dominatrice sur les fondamentaux qui a longuement dominé la rencontre face à une équipe écossaise bien trop souvent approximative sur ses rares temps forts. Mené de 14 points, le réveil écossais sonna à l'heure de jeu avec l'essai de Hugh Jones, tout juste rentré sur le terrain, sur une passe décisive du capitaine Stuart Hogg. 13 minutes plus tard et après 13 temps de jeu tout en puissance, le troisième ligne écossais Hamish Watson est allé inscrire en force le troisième essai de son équipe. Revenu à 24 partout grâce à ses deux essais, le 15 du Chardon va être une nouvelle fois pénalisé dans ses 22 mètres, offrant à Johnny Sexton et ses coéquipiers 3 points de plus et la victoire finale. Au classement provisoire, le Pays de Galles se trouve largement en tête avec 19 points et peut encore remporter son quatrième grand chelem de l'histoire en cas de victoire la semaine prochaine contre les Français. Avec un match de retard qu'elle disputera dans 2 semaines contre l'Écosse, la France se trouve quant à elle à la 3e position à égalité de points avec l'Angleterre. Pour espérer remporter cette 22e édition du tournoi et sans compter sur un éventuel goal average favorable, les Bleus devront impérativement remporter leurs 2 prochaines rencontres avec bonus offensif.
Partout nos joueurs brillent, souvent la victoire est au bout. Élu de bleu et blanc, sa vie et la fête est partout. C'est la Peña qui crie sa joie sur ces terres-là.
Ce week-end, un seul match de top 14 a été disputé. Il opposait les deux derniers du championnat, Bayonne et Agen, pour un match en retard de la 15e journée. C'est une victoire et un soulagement pour les Basques qui quittent l'avant-dernière place au détriment de la section paloise. Profitant du vent dans le dos et de la fraîcheur de leur banc, c'est dans le second acte que les Bayonnais ont fait la différence pour remporter ce match avec bonus offensif 48-20. En tout début de semaine, ont eu lieu le tirage au sort des 8e de finale de la Champions Cup et du Challenge européen qui seront disputés du 2 au 4 avril prochain. Commençons avec la Champions Cup où 7 équipes françaises sont parvenues à se qualifier. Tout d'abord, le Racing Metro, vice-champion d'Europe en titre, recevra chez lui les Écossais d'Édimbourg. Pendant que Toulon et Toulouse iront en Irlande pour s'opposer au Leinster et au Munster, La Rochelle, Lyon et Clermont se déplaceront en Angleterre pour affronter respectivement Gloucester, Exeter et les Londonois. Les Bordelais accueilleront quant à eux les Bears de Bristol, où ils pourront jouer contre un ancien partenaire, le Fidjien Semiradradra. Pour ce qui est de la seconde compétition européenne, le Challenge européen, seulement 2 équipes du top 14 sont encore présentes. Montpellier recevra les Warriors de Glasgow, quand Agen, dernier du top 14, se déplacera à Trévise.
Another icon of New Zealand rugby is Sonny Bill Williams. Not that New Zealand need any more X-Factor players. He's the offload king.
Clap de fin pour un des plus grands trois quarts centres de notre époque. Double champion du monde avec les All Blacks en 2011 et 2015, demi-finaliste du top 14 avec le RCT et vainqueur de la Ligue australienne à 2 reprises, Sonny Bill Williams met fin à sa carrière de rugbyman pour se consacrer à sa seconde passion, la boxe. Et merci à tous et à toutes d'avoir écouté l'Ovalie. Je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end devant le rugby et derrière nos bleus. À bientôt.